classique parmi les classiques. Smells Like Teen Spirit, Nirvana. 17h18, ça fait à peine quelques secondes que le verdict a été rendu, Véro.
Oui.
Et Marc-André Grenon coupable sur toute la ligne.
Exactement, il a été déclaré coupable de meurtre au premier degré, qui était l'accusation initiale, celle qui était plaidée par la couronne, de même que d'agression sexuelle grave. Ça a pris une quarantaine de minutes au jury avant de prendre leur décision et de dire que, OK, on est prêt, on a notre verdict unanime sur le sort de l'accusé de 49 ans. On a remis ça au juge François Huot. On a attendu que les parents de Guylaine Potvin se trouvent au palais de justice de Chicoutimi avant de dévoiler le verdict en question. Puis il y a quelques minutes à peine, on a vu les parents entrer.
Ouais.
C'est des gestes qui se sont déroulés en 2000. Ça fait 24 ans qu'ils attendent après ce moment-là. Lui, ça fait 2 ans à peine qu'il a été arrêté. On dit que les proches de la victime ont éclaté en sanglots dans la salle quand c'est le jury numéro 2 là, qui a déclaré le terme coupable à 2 reprises quand on a parlé des verdicts en question.
C'était le seul verdict qui faisait du sens. Puis juste avant Nirvana, on a fait le tour des nouvelles, puis Véro nous partageait des éléments d'information super importants que les jurys n'avaient pas.
Non.
Puis juste avant de rentrer en onde puis d'ouvrir les micros, Audrey, tu avais une bonne réflexion de dire, là, ils vont apprendre ces choses-là, là, qui est accusé dans un autre dossier, qui pourrait prouver un modus operandi, une intention, puis ainsi de suite. Ils ont pris la bonne décision, puis là, ça va les soulager. Là,
ils vont être contents de la réflexion qu'ils ont eue.
Oui, à la lumière de ces informations-là auxquelles ils n'avaient pas accès, parce qu'à soir, ils vont regarder les nouvelles comme tout le monde. Là. Ils vont se dire, OK, on a callé la bonne shot.
Donc, le meurtre au premier degré, l'important dans tout ça, parce que ça aurait été deuxième degré, ça aurait été prison à perpétuité. La nuance, c'est que meurtre au premier degré, meurtre prémédité, c'est que la possibilité d'une demande de libération conditionnelle ne peut pas se faire avant 25 ans. Grenon a été arrêté en octobre 2022. Fait que rajouter à ça le fameux 25 ans, pas de libération avant le 12 octobre 2047. Il va être rendu à 72 ans. Là, c'est le calcul a été fait par le journal au moment où on se parle. Reste à voir si du côté de la défense, on va décider d'aller en appel de ce verdict-là. Puis vous rappelez que, Denis, tu faisais référence à ce qui s'en vient pour la suite. Il y a 2 accusations qui restent contre Grenon, un procès qui devrait en principe se dérouler cette année. Il a fait la demande à ce que ça se déroule devant juge seul à Québec. C'est l'accusation de tentative de meurtre et d'agression sexuelle pour des événements qui sont survenus en juillet 2000. Guylaine Potvin a été assassinée par Marc-André Grenon en avril 2000 et en juillet 2000. Il y a une jeune femme qui a été laissée pour morte après avoir été violée dans un appartement à Sainte-Foy, et c'est à ce procès-là qu'on risque peut-être d'assister si on ne choisit pas de plaider coupable puis d'éviter à la victime qui, souvenez-vous, elle a témoigné sous le couvert de l'anonymat. On ne connaît pas l'identité de cette femme-là, mais on devrait ramener ça devant le tribunal au mois de mars.
Donc, pour les gens qui viennent de se joindre à nous, 17h21, c'est fait. Marc-André Grenon, coupable de meurtre au premier degré.
Et
donc,
d'agression sexuelle.
De meurtre prémédité et d'agression sexuelle.
Fait que là, mettons qu'il est coupable, là, ce serait 2 peines qui s'accumuleraient, dans le fond?
Oui, parce que c'est des gestes qui sont différents, mais d'un autre côté...
Tu restes avec les mêmes possibilités de libération conditionnelle. Tu ne peux pas être condamné à 125 ans de prison au Canada, malheureusement, diront certains. Là, parce que le vrai cumulatif des peines aux États-Unis...
C'est concurrent ici.
Des fois, ça donne des sentences ridicules. Là. Tu ne peux pas passer 525 ans en prison. Même tes os t'offront pas, là, mais c'est pour le message.
C'est l'histoire d'Alexandre Bissonnette.
Oui, c'est ça j'allais dire. Tu ne peux pas accumuler les victimes non plus.
Exact. Ben, les sentences que tu reçois pour chacune des victimes, on s'est rendu jusqu'en Cour suprême pour avoir la fameuse jurisprudence par rapport.
On est quelques-uns à penser qu'on devrait le faire, là, 33 morts, 33 peines. Mais en tout cas, dans ce cas-là précis, c'est la peine la plus sévère que notre système se permet pour Marc-André Grenon. On va parler d'autres choses parce que c'est important de varier les plaisirs. Et lui-même a décidé de le faire aujourd'hui parce qu'habituellement, il va voir M. le maire. Mais là, il a décidé d'aller nager dans le fédéral et l'environnemental. Jeff Fortin, salut!
Ben écoute, pendant que mes amis étaient justement avec le maire et Claude Villeneuve... au conseil de ville, moi, je décide d'aller voir Steven Guilbeault et Joël Lightbaum.
Qui était en ville?
Qui était en ville, qui était dans une entreprise qui s'appelle Lazerax. C'est sur l'avenue d'Alton.
OK. Tu peux enlever les poils, ça?
Ben non. Non? Une entreprise que je connaissais pas.
Mais... Ça, c'est vivant, là.
Ah, OK, bon, d'accord. C'est noté.
Une entreprise que je connaissais pas, mais qui est vraiment hot. Ils conçoivent des batteries de voitures électriques.
OK.
Ils ont des contrats avec Tesla, Volkswagen, BMW, Volvo. Fait qu'ils en distribuent partout dans le monde.
C'est très hot.
C'est vraiment hot. Et en plus, ils font du recyclage de produits d'aluminium au laser. Tout ça se fait au laser.
OK.
Fait que ce qui fait en sorte que pour faire les batteries de véhicules électriques, ça prend à peu près, c'est 200 fois plus vite que si tu le faisais avec de la soudure mécanique. Puis le recyclage d'aluminium, ben, il donne une deuxième vie aux produits d'aluminium.
Je comprends bien pourquoi il y avait un ministre de l'Environnement du fédéral ici. Là.
T'as tout compris!
Ouais, c'est ça.
Alors, c'est une entreprise de 120 employés, puis le gouvernement fédéral annonçait une subvention de 1 million de dollars pour l'entreprise. On écoute là, justement Stephen Guilbeault qui explique pourquoi cette entreprise a été sélectionnée.
Et ce qui est devenu clair pour moi, puis pour notre gouvernement, c'est que on ne peut pas se libérer de notre dépendance aux combustibles fossiles, le charbon, le pétrole, le gaz, si on ne passe pas par l'électrification dans bien des secteurs. On ne pourra pas être tout électrifié, mais dans le secteur industriel, bien sûr, dans le secteur des transports, dans le bâtiment également. Et pour ça, notamment pour tout le secteur des transports, on a besoin de batteries, on a besoin de technologies comme la vôtre pour nous aider à optimiser, à faire des batteries qui vont coûter moins cher, à faire en sorte que ce soit plus facile, plus efficace de faire cette transition-là.
Évidemment, c'est une poignée d'accès pour des ministres qu'on ne voit pas souvent en ville. Quand ils arrivent pour annoncer une belle subvention pour une belle entreprise, bien, ça permet d'aborder d'autres sujets avec eux autres.
Exactement.
Aussi.
Exactement. Évidemment, bien, le sujet qui me brûlait les lèvres, c'était Northvolt, parce qu'on en parle énormément présentement à l'Assemblée nationale.
On parle de batterie, parlons de batterie.
Ben, exactement. Et avec raison, parce qu'on parle, est-ce qu'il devrait avoir une enquête du BAP? Mm-hmm. Est-ce que ça devrait être soumis à cette procédure-là? Pourquoi on l'a pas fait, il y a des milieux humides, il n'y a pas d'accepté sociale, bien Stephen Guilbeault lui répond qu'il faut tout simplement accélérer les projets de batteries électriques.
Je pense que le gouvernement du Québec a décidé il y a plusieurs mois de changer les normes pour un BAP par rapport à un règlement qui existait, qui n'était pas pour l'industrie des batteries d'automobile, mais qui était pour une autre industrie. On a décidé d'adapter ce règlement-là. Vous savez, on est un peu... Les gouvernements, on est un peu pris entre deux feux. C'est-à-dire que quand vous écoutez le discours de beaucoup, beaucoup de gens, des écologistes, les gens veulent qu'on aille vite dans la transition écologique. Mais en même temps, pas trop vite, parce qu'on veut que les choses soient bien faites. Puis nous aussi, on veut bien faire les choses. Alors, comment est-ce qu'on peut être le plus efficace possible, tout en ayant des procédures qui sont démocratiques, où on respecte évidemment les normes environnementales, mais c'est utopique de penser qu'on peut se libérer de notre dépendance au pétrole si on ne fait pas plus d'électrification.
Mon Dieu, le moment me semble bien choisi pour rappeler peut-être aux plus jeunes ou aux gens qui ne sont pas au courant, c'est quoi le parcours de Stephen Guilbeault?
Oui.
Parce que Stephen Guilbeault était un écologiste enragé à une certaine époque.
C'est Greenpeace.
Il ne faisait pas de la politique, il faisait du Greenpeace. Et quand il a décidé de se lancer en politique, les écologistes en général disaient « Oh, quelle bonne nouvelle! Enfin, on va avoir un des nôtres au sein du gouvernement. On va pouvoir mettre notre agenda par-dessus l'agenda des autres. Puis enfin, on va pouvoir s'attaquer aux problèmes de l'environnement, de la pollution et ainsi de suite. »
Souviens-toi, à l'origine, il ne s'est même pas retrouvé à l'environnement immédiatement. Il était au patrimoine.
Ouais.
On a joué safe en le plaçant pas dans ce secteur-là tout de suite en partant.
On lui a fait apprendre les lignes de presse politique, là.
Et de toute façon, la politique étant ce qu'elle est, ben maintenant, les écologistes, ils détestent Stephen Guilbeault parce qu'il va pas assez vite en tant que ministre. Puis il vient de vous le dire, c'est pas demain la veille qu'on va s'échapper de notre dépendance au pétrole, mais ça peut pas m'empêcher de me faire sourire, de l'entendre de la bouche de Stephen Guilbeault.
De faire sourire, puis moi, ce qui m'a fait sourire aussi, c'est qu'on est dans une entreprise entièrement québécoise chez Lazarax, où on annonce 1 million de dollars. Mais on a annoncé une subvention de 2,7 milliards à Northvolt, qui est une entreprise qui vient de l'étranger.
Ben oui.
Donc, ça me fait sourire également. On parle beaucoup de projets d'éolien présentement aussi. Hydro-Québec, il faut accélérer le pas. Puis là,
ce qui se passe à Côte-de-Beaupré, entre autres.
Oui, à chaque place où on veut en installer, que ce soit Côte-de-Beaupré, Arthabaska, partout, il y a toujours de la grogne au niveau
bougonne,
des citoyens.
Pas dans ma cour.
Mais en même temps, ben, on veut se doter de meilleures capacités d'électricité parce qu'on veut passer à l'électrification des véhicules et de l'industrie. Alors, j'ai posé la question à Stephen Guilbeault. On fait quoi devant ce dilemme-là de « on a besoin d'éoliennes, mais le monde n'en veut pas » Voici sa réponse.
L'acceptabilité sociale, c'est, à mon avis, une notion qui mériterait d'être mieux développée. Parce que l'acceptabilité sociale, c'est pas l'unanimité. Ça n'existe pas, l'unanimité, pour quelques projets que ce soit dans un pays comme le Canada. Il y a de l'opposition à des transports, à des projets de transport en commun. Il y a de l'opposition, on le voit avec Northvolt, il y a de l'opposition à des projets d'éolien. Puis il y a aussi beaucoup de gens qui sont d'accord. Alors, moi, je pense que notre rôle, c'est d'aller vers les formes de production d'énergie qui ont le moins d'impact sur l'environnement.
Fait que l'accessibilité sociale, c'est important à partir du moment où le monde est d'accord avec nous autres.
C'est ça, exactement. Quand le monde n'est pas d'accord, comme avec Nordvolt et les éoliennes, on le fait pareil, on a notre besoin.
On n'a pas l'unanimité, c'est impossible. Fait que on va le faire.
Puis c'est là que ton parallèle avec la carrière de Stephen Guilbeault près de Greenpeace est écœurant parce que qu'est-ce qu'il demandait tout le temps? C'est, il disait toujours, on peut pas faire ce projet-là. Les gens sont pas d'accord. Mais les gens, c'était une minorité des fois, mais les gens n'étaient pas d'accord.
Stephen Guilbeault n'était pas le seul ministre présent. Il y avait également Joël Lightbound. Vous avez parlé du scandale d'Arif Khan.
Ben, on n'a pas le choix.
L'affaire qui devait coûter combien puis qui a coûté combien?
Ça devait coûter 80 000 et ça a coûté 100 quelques millions de dollars. C'est l'équivalent que si, mettons, je t'avais chargé une épicerie 100 piastres, 74 000 piastres.
Et aux douanes, c'est les mêmes questions dans le même ordre. Faut que tu donnes ton passeport. Il n'y a rien qui a changé.
Non, et là, aujourd'hui, on apprenait en plus qu'il y a 10 000 personnes qui vont d'un recours collectif contre Arif Khan parce qu'on les aurait mis en quarantaine. C'est dans le temps de la COVID.
Ah ben oui.
Alors qu'il n'avait pas été mis en quarantaine.
OK.
Fait que tout a bien été avec Arif Khan. On écoute Joël Lightbound, mais il n'est pas très satisfait ben là, d'Arif Khan.
J'imagine. Hein?
Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné avec Arif Khan. Qu'on en arrive avec une telle somme pour cette application-là, c'est inacceptable. On a le devoir comme gouvernement de s'assurer que les fonds publics soient bien gérés. Il y a eu des erreurs. Il y a deux fonctionnaires qui ont été licenciés. Suite à ça, il y a eu une enquête en cours, et plus qu'une enquête en cours, c'est qu'on va, voir ce qui en ressort. Mais c'est important de faire la lumière sur ce qui s'est passé.
Là, il faut savoir que pour Arif Khan, le plus récent qu'on a appris cet après-midi, c'est que les contrats des entreprises, des fondateurs de GC Strategies, les deux, là...
Oui, c'est une entreprise à deux qui ont empoché tous ces montants-là.
Exactement, vont être examinés par les élus, considérant le fiasco qui semble être devenu Arif Khan, mais eux avaient des contrats avec le fédéral bien avant Arif Khan.
Oui, puis clairement qu'il va falloir revoir les pratiques. Puis là, je fais un comparatif peut-être boiteux, mais avec le financement politique au provincial, où il faut revoir les pratiques parce que viens voir une ministre 200$ pour deux minutes. Là. Ben, c'est le même principe. T'sais, on coupe tellement les appels d'offres pour que tout rentre de gré à gré.
Pour justement que ce ne soit pas des appels d'offres.
Et c'est ça. Que là, on arrive avec des scandales comme ça, comme Arif Khan.
Joël Lightbound, c'est un libéral, ça.
Ben oui, c'est un libéral.
Libéral fédéral.
Fédéral.
Mais il y a un palier provincial.
Oui.
Il pense quoi de la Coderre Mania,
ben,
lui?
Ben, c'est ça, parce que Joël Lightbound, souviens-toi, quand on a parlé de course à la chefferie au Parti libéral, ben, québécois, du Québec.
Son nom sort souvent.
Son nom sort énormément. Mm-hmm. Fait que j'ai dit, coudonc, il y a des élections qui arrivent, mais allez-vous vous présenter aux élections dans Louis Hébert ou vous allez vous présenter à la chefferie du PLQ? Voici sa réponse.
Disons qu'en ce moment, là, j'en ai plein mon assiette dans mon rôle de député de Louis Hébert au fédéral. Je m'y sens très utile. Puis par rapport à M. Coderre, à ma connaissance, il n'y a pas encore annoncé, mais j'ai énormément de respect pour M. Coderre. Puis je lui souhaite tout le meilleur dans ce qu'il décidera de faire.
Il n'a pas annoncé, mais il vient sauver les régions, dont la nôtre, semble-t-il.
Oui. Ah, j'ai hâte qu'il sauve Québec de Nicolas.
Oui, hein?
Ah non, j'ai Superman avec sa cape, j'ai confiance au bout. Mm. Mais en ce moment, moi, c'est le mot que je retiens, en ce moment... petite défaite électorale des libéraux fédéraux aux prochaines élections qui s'en viennent à grands pas. Parce que quand j'ai questionné aussi sur le NPD, ils disaient « Ah, j'ai pas trop de nouvelles, mais je sais pas trop. » Fait que ça s'enligne pas pour une entente entre les libéraux. Fait qu'une petite défaite au fédéral, puis d'après moi, on va le voir rebondir au provincial. À moins que là, on étire tellement la sauce du côté du Parti libéral provincial que Marois Risky peuvent se présenter. Là, ça va être plus tough pour Joël Lightbound.
À suivre. Hey, merci beaucoup, Jeff.
Ça fait plaisir.
D'être passé. On va te retrouver demain matin, évidemment, avec toute la belle gang de Reg. Vous avez reçu GND?
Oui, c'était super intéressant, honnêtement. Ouais. Ah oui, puis... T'sais, pour de vrai, là, le projet que Québec solidaire met de l'avant pour contrer l'insécurité alimentaire dans les écoles, on peut juste être pour
bravo.
Hey, seul pays du G7 à ne pas avoir ça en place. J'en suis comme pas revenu quand il était avec ces chiffres-là. Puis, t'sais, on a souvent tendance à penser que l'insécurité alimentaire, ça touche des gens qui sont à faible revenu. C'est faux. Si, mettons, dans plusieurs milieux scolaires, il y a des enseignants, il y a des directeurs qui se rendent compte que c'est pas parce que tu fais du cash que nécessairement tes enfants
sont bien nourris le matin. Tes enfants
Tu peux négliger tes enfants pareil. Puis j'ai bien aimé la fin de l'entrevue aussi où on lui a posé la question, t'es, hey, avec les sondages qui sont pas bons pour QS, qui ont augmenté pour le PQ.
Il n'y a pas beaucoup de réponses, par exemple.
Il n'y a pas beaucoup de réponses, mais ce que j'ai aimé, c'est de dire, je vais être en cohérence avec mes valeurs. Je respecte ça. T'es, peu importe qu'on soit pour ou contre ce qu'il prône. Moi, je respecte beaucoup qu'il prône ces valeurs.
Si vous avez un petit peu de curiosité politique, gênez-vous pas. Allez chercher l'entrevue sur le blvd.fm ou encore sur l'application Boulevard. Merci, Jeff.
Salut.
Salut.
Rappelez la grosse nouvelle, le verdict qui a été rendu public dans l'histoire de Marc-André Grenon du côté du palais de justice de Chicoutimi. Il a été reconnu coupable du meurtre au premier degré et d'agression sexuelle grave dans l'histoire de Guylaine Potvin en avril 2000. Donc, ça a repris une quarantaine de minutes aux 12 jurés pour en venir à un verdict unanime.
Ouais.
Donc, prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Retour en cours du côté de Québec au mois de mars pour Marc-André Grenon dans une histoire de tentative de meurtre et d'agression sexuelle. En passant, on a attendu les proches pour sortir le verdict cet après-midi. Ils ont éclaté en sanglots. C'est presque 24 ans après les gestes qu'enfin ils peuvent se dire « Notre deuil peut... » pas nécessairement s'achever, là, et continuer à évoluer.
Puis, il y a une phrase que vous allez entendre probablement beaucoup dans les prochaines heures, c'est « Justice a été rendue ». Ouais, autant que notre système le permet, dans ce genre de circonstances-là, on verra pour la suite, bien évidemment. 17h34, je vous referai à l'entrevue de Gabriel Nadeau-Dubois que la gang du matin a faite ce matin. C'est que j'ai remarqué, en tout cas, quand on a reçu Sam Ahmad cette semaine, que la politique, ça vous fait réagir. Puis c'est bien tant mieux, il faut s'occuper de ce qui se passe autour de nous autres. Mais moi, dans cette entrevue-là, j'ai appris quelque chose. J'ai appris c'était quoi de l'insécurité alimentaire, parce que c'était vraiment pas ça que j'avais en tête. Je pensais que l'insécurité alimentaire, c'est la face qu'Audrey m'a faite quand j'ai mangé ses chocolats à midi.
Oh, franchement.
C'est pas ça.
T'es tellement cheap.
C'est plus grave que ça.
T'es tellement cheap.
Ça y est.
T'es épouvantable.
Je t'ai mangé tes cocos au chocolat, puis je t'ai promis que j'allais t'en ramener.
T'es terminé.
En attendant que t'allais être...
Je t'ai permis d'être terminé.
Oui, mais là, c'est parce que tu t'es donné mal au cœur la dernière fois que t'en as mangé.
T'as absolument raison.
Ouais, fait que là, la meilleure chose que je pouvais faire pour ton insécurité alimentaire, c'est les manger à ta place.
Mm-hmm. Pince le piton.
Ouais, c'est ça, je vais faire. Nouveauté de Jelly Roll. Ça s'appelle Halfway to Hell à Boulevard. To shave you, boy.